Bonsoir à tous. Donc, la réunion de ce soir s'intitule Grand âge et santé publique. Donc, comme d'habitude, pour notre association ASPES, on essaye d'avoir deux, au minimum, points de vue sur une même problématique et d'ouvrir, à la suite de ces deux présentations, un débat avec vous pour que vous puissiez poser des questions, demander des compléments d'information. Pour la soirée de ce soir, donc, on accueille Marc Pacalin, qui est professeur de gériatrie au CHU de Poitiers et qui donc lui va donner un point de vue plutôt plutôt médical, un point de vue d'un médecin. Et puis Benoît Pin, qui lui est philosophe. Oui, non, mais bon.
Il n'est pas encore philosophe.
Modeste.
Il est prof de philo à la fac, philosophe dans sa tête, mais bientôt... Non, mais et qui lui donnera un point de vue, donc, sur ce grand âge et sa représentation dans la société. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, par rapport à cette problématique du grand âge et de la vieillesse, on est tous concernés, tous effectivement un petit peu envieux ou réticents suivant notre état d'esprit du moment. Mais à chaque fois, à la fois, on voudrait bien y être et au moins pouvoir le vivre. Mais c'est aussi quelque chose qui fait peur. Donc je crois qu'on a cette ambivalence par rapport au grand âge, au moins en ce qui concerne chacun pour soi. Et donc, c'était intéressant de voir comment, en termes de santé, on regarde une personne qui est plus âgée, entre guillemets, que la moyenne, ou qui, puisque le grand âge, ça veut à peu près rien dire, et que chacun n'a pas les mêmes capacités après 60, 70 ou 80 ans. Mais de toute façon, une des questions qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que le regard, y compris du professionnel, et le même face à quelqu'un qui est très âgé que quelqu'un qui est jeune quand il se présente pour une pathologie, même une pathologie simple. Donc je m'arrête là de cette petite présentation. Je vous laisse la parole. Donc vous avez, Monsieur Pacalin, commencé. Monsieur Pin réagira et vous présentera, et puis on entamera la discussion.
Voilà.
Bien, messieurs, bonjour. Marc Pacalin, je suis chef de service de gériatrie au CHU, puis j'ai également responsable du centre mémoire de ressources et de recherche qui a été créé par Roger Gilles il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Et donc, en tant que gériatre, je suis très heureux d'avoir été sollicité pour cette soirée par Roland Bouillard,
dont j'apprends qu'il n'est pas là.
Peut-être.
Ah, vous préférez avec le micro, peut-être. Très bien. Vous parlez de la gériatrie, du grand âge, il faudrait des jours et des jours. Donc ce qui est sûr, c'est que je me nourris aussi des échanges. Donc on a toujours beaucoup à apprendre les uns des autres. Quand on m'a demandé, j'étais très pressé, on dit il faut trouver un titre pour cette soirée. Oh ! Et alors j'ai mis « Être un vieux en 2013 ». Est-ce que certains parmi vous sont choqués de ce titre ? Oui, je suis sûr que ça. D'autres moins. Et donc c'est très intéressant, parce qu'on soit choqué ou pas choqué, ça veut dire qu'il y a une... Voilà, c'est... On vit tous à la même vitesse, un jour, même... Mais le côté vieux peut avoir pour certains une connotation péjorative, alors qu'il faut savoir désacraliser ça. Le vieillard, le vieux, mais c'est nous demain. Et tant qu'on lui donnera une connotation péjorative, on aura du mal à anticiper. Parce que s'il y a un maître mot dans notre vie, c'est d'anticiper. En tant que toubib au quotidien, il y a Jean-Luc Pfefferkorn qui dirige le réseau Ville-Hôpital, qui s'occupe beaucoup des personnes âgées dans les centres-villes. Dans l'urgence, on arrive à faire le boulot. Mais qu'est-ce que c'est dommage. L'anticipation, ça limite bien des souffrances pour les uns et pour les autres, et ça nous facilite bien la tâche. Donc voilà, je décline. Alors, on fait plutôt le débat après, mais si vous voulez éventuellement poser une question... Il n'y aura aucun souci. Qui a eu connaissance du plan national bien vieillir? Levez la main. Trois personnes, c'est bien. Quatre. Et il est fini depuis 4 ans. C'est, alors je ne sais pas si vous aviez eu connaissance de ce plan dès 2007, ou c'est plutôt fin 2009 qu'on l'a découvert, mais quand même, il y a eu une volonté nationale de bâtir un plan bien vieillir. On va parler de démographie, parce que la démographie, c'est le maître mot, et c'est ce qui va clairement nous amener dans les années à venir à prendre certaines décisions pour gérer au mieux le quotidien. Alors, on a tous appris, quand on était jeune, une pyramide des âges. Alors là, ça n'a rien d'une pyramide. Hein. Ça a plutôt l'allure d'un chapka ou de je ne sais quel bonnet oriental. Juste, je n'interrogerai pas à la fin, hein, mais sachez qu'aujourd'hui, on a près de 15 000 centenaires, alors qu'il y a 50 ans de là, il y avait juste quelques centaines. Et que c'est surtout la population des plus de 85 ans qui est... Ça croît de manière très exponentielle avec plus de 100 000 Français chaque année qui a plus de 85 ans. Et encore, ça s'est donné 2007. 6 ans plus tard, c'est pas forcément beaucoup différent, mais ce qui est sûr, c'est plutôt dans cette allure-là. Et ce qui est plus intéressant que la démographie, c'est plutôt l'espérance de vie. Aujourd'hui, avec les progrès de la médecine, avec les progrès environnementaux, eh ben on sait qu'on vit beaucoup plus vieux que nos aïeuls. On dit nos aïeux.
Comment on veut lancer les
femmes ? Oui, c'est ça. On va donner honneur aux femmes. Oui. Et c'est vrai que c'est au prix de pathologies. On vieillit plus longtemps, mais au prix de maladies chroniques qui sont traitées plus ou moins équilibrées par les médicaments. Et donc, on arrive à un certain âge, encore en vie, et avec beaucoup d'espérance de vie. Quelqu'un aujourd'hui qui a 60 ans peut espérer vivre plus de 22 ans pour les hommes, plus de 27 ans pour les femmes. Quelqu'un qui aujourd'hui aurait 75 ans peut vivre près de 11 ans pour un homme, près de 14 ans pour une femme. Donc il y a vraiment une espérance de vie. Et ça, c'est très très important sur le plan médical qui est ma partie. Ça veut dire que quand je prends une décision de quelqu'un qui a 80 ans, je prends une décision qui n'est pas pour 3 mois, pour 6 mois, c'est potentiellement pour une dizaine d'années. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'âge éventuellement pour traiter et équilibrer efficacement une hypertension artérielle ou autre. En tout cas, forcément, quand on voit cette longévité, il y a une prise de conscience collective, puisque ça entraîne des défis évidemment majeurs. Alors l'Organisation mondiale de la santé, il y a quelques années, a dit... Oui, l'espérance de vie, c'est bien gentil, mais il nous faut quelque chose d'un peu plus apéritif. Et ce qui nous intéressait plus, c'est le nombre d'années en bonne santé. Parce que tous, on serait prêts à signer ici pour vivre le plus longtemps chez nous en bonne santé et mourir d'une crise cardiaque avec un verre de Bordeaux. Clac. Et on n'embête personne. La vie fait que, on sait bien que ce n'est pas le cas pour tout le monde et qu'on va avoir besoin à un moment... du système de santé ou du système environnemental pour que les choses soient sereines. C'est l'adjectif que j'utilise en permanence. Il faut être serein. Donc cette expérience de nombre d'années en étant en bonne santé, c'est pas anodin. Là, vous avez la plupart des pays européens et vous avez la France. La France, on regarde, si on met l'âge de 65 ans, on voit que le nombre d'années sans handicap va au-delà de l'âge de 65 ans. Je vais le faire avec la flèche. Là. Voilà. À 65 ans, admettons qu'on prenne notre retraite au plus tard à 65 ans, même si c'est 62 ans, je crois. En France, on peut avoir une espérance de vie sans handicap qui dépasse l'âge de la retraite. Et c'est capital. Parce que regardez le nombre de pays européens, de l'Est en particulier, où le nombre d'années sans handicap est bien... avant l'âge de 65 ans. Donc on est déjà bien avantagé par rapport à d'autres pays, parce que c'est pas anodin. Derrière, sur le plan financier, c'est la retraite, c'est la capacité de solidarité intergénérationnelle, etc. Alors c'est quoi vieillir ? Vieillir, c'est une résultante qui combine à la fois des facteurs génétiques, faut le faire ça, facteur génétique, j'ai 80 ans, qu'est-ce que ça vient faire là ? Tous les uns les autres, on a été des fêtes de famille, ou dans certaines familles, sur la photographie, il y a 5 générations, et d'autres familles, c'est beaucoup plus décimé, et il n'y a pas ces photographies de l'arrière-grand-mère jusqu'à l'arrière-petite-fille. Donc les facteurs génétiques jouent. Et puis les facteurs environnementaux qui vont être capitaux, puisque évidemment, c'est pas pareil de vivre dans le nord d'un pays que dans le sud d'un pays. C'est pas pareil de vivre plus à l'ouest qu'à l'est en fonction des régions. C'est pas pareil d'avoir travaillé à la mine que d'avoir eu un travail un peu plus bureaucratique. Et tout l'enjeu du vieillissement, c'est notre niveau de réserve fonctionnelle. Qu'est-ce qui fait que face à un événement qui va intervenir au cours de la vie, je vais bien réagir ou mal réagir? Qu'est-ce qui fait que pour certains, un syndrome grippal, et n'oubliez pas de vous vacciner, c'est l'époque, un syndrome grippal va les clouer au lit jusqu'à entraîner éventuellement une hospitalisation, voire une complication qui pourrait être fatale, alors que la personne d'un même âge aura eu la goutte au nez, mais au bout de 48 heures, 3 jours, aura tout à fait passé le cap. Et c'est ça la grande hétérogénéité qu'on a les uns avec les autres, cette capacité de réserve fonctionnelle pour faire face à un événement qui survient. De manière un peu plus schématique. C'est vrai que vous avez ici l'âge qui est en abscisse, les capacités qui sont en ordonnée, et puis là, qui apparaît en gris sur la plaque, pardon, je vais m'asseoir, ça évitera que je cache l'écran pour certains, ce qu'appelle le seuil d'incapacité. Tous les uns les autres, notre but, c'est de ne jamais traverser ce seuil d'incapacité pour se retrouver en perte d'autonomie et devoir être assisté au quotidien. Donc, tout dépend de la réserve qu'il existe entre le déclin légitime qui arrive à partir de l'âge 25-30 ans. Voilà, on est tous à la même enseigne. Là, peut-être... Et la distance par rapport au seuil d'incapacité. Plus j'aurai de réserve à ce niveau-là, l'air sous la courbe, entre guillemets, plus j'ai des chances de faire face efficacement à un événement psychologique, physique, qui surviendrait dans ma vie. Et donc à ce niveau-là, on n'est effectivement pas la même enseigne. Aujourd'hui, il y a un niveau d'éducation qui est incroyable. Qui n'a pas son bac. Si on se rapporte en 1930, bien des Français qui ont aujourd'hui plus de 80 ans ont souvent eu le niveau certificat d'études et puis n'ont pas eu cette réserve intellectuelle à développer comme les jeunes d'aujourd'hui l'ont. C'est-à-dire que bien des tests que moi, au niveau du centre mémoire, je fais passer en permanence au sujet des plus âgés de ma patientèle ne sont pas du tout adaptés aux plus jeunes d'aujourd'hui qui ont des cerveaux qui sont nourris à une vitesse grand V par rapport déjà à moi-même et qui plus est aux personnes du siècle dernier. Ce vieillissement est donc tout à fait homogène, mais il se prépare tout au long de la vie, c'est ce que je vous disais en préambule en disant il faut vraiment anticiper parce que ce n'est pas forcément une maladie. On distingue trois types de vieillissement. Celui vers lequel on concourt tous, le vieillissement réussi, c'est-à-dire que on fait notre activité physique habituelle, qui peut être que de la marche jusqu'au footing, voire le vélo, de l'aquagym, tout ce que vous voulez. Et j'ai toutes mes capacités. Ça touche jusqu'à 30% de la population. Il y a le vieillissement vers lequel on ne veut surtout pas concourir, mais il existe des structures qui sont soit des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, les fameuses EHPAD, soit les unités de soins de longue durée pour les sujets les plus hospitalo-requérants, les plus polypathologiques. Et là, les personnes sont dépendantes. C'est vieillissement pathologique de par le cumul de pathologies et ça touche 10 à 20% de la population. Et puis au milieu, c'est là, comme toujours, c'est toujours le milieu qui est le plus vaste, c'est ce vieillissement usuel. Ces personnes qui n'ont pas un vieillissement le plus réussi parce que, à la fois sur le plan physique et psychologique, voire environnemental, financier, tous les feux ne sont pas ouverts. Mais bon an, mal an, ça tient la route. Et ça, on connaît tous autour de nous des personnes dites âgées. Alors en gériatrie, on met âgé à partir de 75 ans, mais qui vivent en couple, Et chacun dans le couple est l'aidant, le soignant de l'autre, son meilleur infirmier. Donc tant que tous les deux sont ensemble, ça tient la baraque. Et puis il suffit qu'il y ait un petit grain de sable qui fait qu'il y en ait un qui doit être hospitalisé, par exemple. L'autre tout seul au domicile, ça ne le fait plus. Donc c'est là où on voit, voilà, il y a le binôme, ça va. Et ça, c'est un peu ce vieillissement usuel, c'est ce qu'on appelle la fragilité. Tant que les feux sont ouverts, c'est à peu près serein, tout se passe bien. Mais le moindre grain de sable, et les choses peuvent apparaître. Et c'est très compliqué parce que les familles aujourd'hui sont éclatées. Quand il y a des enfants, ils ne sont pas forcément comme c'était auparavant dans la même ville. Aujourd'hui, vous avez des enfants répartis sur le territoire, voire à l'étranger, et tout le monde n'est pas à l'aise sur le plan financier pour subvenir à ces problèmes dus à la solitude. Donc ça, c'est... Oui, allez-y, monsieur. Ouais, ça veut dire qu'il n'y a aucune étude digne de ce nom. Vous savez, c'est étude prospective où on aurait pris un panel, ta. Voilà, c'est un conglomérat de plusieurs articles qui donne une fourchette très très vaste, sachant que finalement c'est le vieillissement usuel qui est quand même le plus important, quoi qu'il arrive. Après voilà, si on est pessimiste, on se met à 12. Si on est un peu optimiste, on se dit chouette, il y a un tiers quand même de la population qui va y arriver. Le vieillissement réussi, c'est celui-là. Vous vous rappelez tout à l'heure, c'est pas tout à fait le même schéma, mais je reprends ce schéma. Et là, on va dire que voilà, il y a ce déclin progressif, inéluctable, qui m'amènera à la fin de mes jours. Vieillissement réussi, il y a un pépin qui survient, psychologique, physique. Alors évidemment, c'est l'infarctus, la fracture du fémur, le divorce, le chômage, le veuvage, tout ce que vous voulez comme événement, comme pépin au cours de la vie. Et dans vieillissement réussi, je vais dégringoler 2-3 marches, mais quelques temps après, j'avais toutes les ressources pour récupérer la physiologie. Et je n'aurais jamais été jusqu'au stade d'insuffisance. Vieillissement pathologique, le même pépin survient, eh bien j'ai pas assez de réserve. Donc je dégringole, mais quand je reprends du poil de la bête, je remonte qu'une seule des 3-4 marches qui ont été dégringolées. Et c'est une cascade d'événements. Un problème appelle un nouveau problème. Je décline à la même vitesse qu'auparavant, mais avec quand même un delta. Un nouveau problème survient et de nouveau, je dégringole plusieurs marches qui, malgré le fait que je sois pris en charge, traité, équilibré, eh bien, j'ai quand même perdu et je décline. Et à un moment, donc, je passe dans ce stade de perte d'autonomie où il va falloir vraiment que la société d'abord me voie, que je sois signalé, qu'ensuite j'accepte ce qu'on va me proposer, et puis que tout soit le plus serein possible. Ce qui est intéressant par rapport à ces états théoriques, vieillissement réussi, vieillissement usuel, vieillissement pathologique, c'est l'auto-perception. On connaît tous, pardon mesdames, des Tati Daniel, mais je peux peut-être le faire en masculin aussi, hein, des tontons Robert, allez, qui ont tout pour être heureux, mais qui râlent tout le temps. Ça va jamais. Et à l'inverse, on connaît des gens qui ont toutes les misères du monde et qui sont extraordinaires. Et donc cette auto-perception, elle est très très intéressante. En particulier si on doit porter les gens vers l'avenir. Là, il se trouve que j'ai conduit, enfin, avec la faculté de médecine, nous avons conduit un observatoire du vieillissement dans la commune de Neuville-de-Poitou. Et là, on a eu plus de 500 Neuvillois qui ont participé à des enquêtes pour voir comment ils jugeaient leur vieillissement, comment ils le percevaient. Et c'est très, très intéressant de voir à quoi ils corrèlent le risque de vieillissement. Et ce n'est pas forcément toujours ce qu'on attend comme résultat. Mais ce qui prime le plus, c'est le moral. L'anxiété, la dépression, ça vous coupe les jambes. Ça nous coupe les jambes. Quels que soient les problèmes familiaux, les problèmes financiers, les problèmes d'autres pathologies médicales, les problèmes de qualité de la commune avec tout ce qui est à la disposition des habitants, que ce soit mon impression de qualité de vie, etc. L'anxiété et la dépression, ce sont vraiment les deux paramètres qui nous pourrissent un petit peu le vieillissement. Donc, comme je vous disais, des personnes atteintes de maladies chroniques peuvent se sentir en vieillissement réussi, hein, et d'autres qui n'ont pas de pathologie véritablement notable, voilà, sont très pessimistes par rapport au vieillissement. Et donc un joli mot qui est celui de la résilience. La résilience, cette capacité à composer avec son déclin, cette capacité à rebondir. Un événement survient, un pépin survient, eh bien c'est pas grave. J'ai la réserve pour rebondir et j'utilise cette réserve et je rebondis. Et là c'est vrai qu'au niveau physiologique, ça fait référence à la plasticité du cerveau. C'est des trucs qui sont incroyables, la plasticité du cerveau. Ici vous savez, il y a des expériences vraiment terribles qui sont menées. Mais vous prenez pas des animaux, on va prendre des êtres humains. Comme ça. Il y en a qui sont des pianistes virtuoses. D'accord ? C'est-à-dire, vraiment les pianistes qu'on aurait tous aimé être un jour ou l'autre, et qui sont des virtuoses. Si vous faites une projection de leurs doigts sur les aires du cerveau qui commandent les doigts, ça dépasse totalement la projection attendue. Tellement ils ont, avec leur travail, leurs années d'assiduité, hypertrophié la zone de référence des doigts. Donc cette plasticité du cerveau existe. C'est parfois un peu délétère, parce que quand cette zone s'hypertrophie, elle peut aller marcher sur les plates-bandes d'une autre zone qui n'avait rien demandé, et qui du coup pourrait se trouver en situation difficile si elle venait à être mobilisée. Voilà, en tout cas, la résilience, c'est quelque chose qui est très très important. Cette coping, c'est le terme anglo-saxon, pardon. Mais évidemment. Alors, sur Neuville, on a été un peu surpris parce que finalement, il y a des tests hein, de coping pour vraiment évaluer la résilience des uns et des autres. Et finalement, par rapport à l'auto-perception du vieillissement et de la qualité de vie, ben, ça n'intervenait pas autant qu'on aurait pu le penser en disant ceux qui ont une résilience énorme, c'est ceux qui vont envisager le vieillissement de la manière la plus sereine possible. Ben, dans cette étude, en tous les cas, on n'a pas réussi à le faire sortir. On vit plus vieux, mais les plus âgés aussi. Ce qui est intéressant, c'est cette solidarité intergénérationnelle. Et un peu dans le diagramme que je vous montrais tout à l'heure avec le problème de l'âge de la retraite, en guillemets, par rapport aux possibilités d'avoir encore plusieurs années de vie sans aucun handicap, c'est très très important au niveau d'un pays d'avoir l'équation population des 50-74 ans aidant sur la population des plus de 85 ans aidés. Pour anticiper un avenir serein, c'est ça dont un pays a besoin. Que j'ai une population 50-74 tout à fait à même de s'occuper des plus âgés. Or, aujourd'hui, on sait que ça peut être l'inverse qui se passe. À cause du problème de chômage, c'est souvent les plus âgés qui vont être obligés de mettre la main à la poche pour aider. Moi, je dis aux étudiants en médecine de faire beaucoup d'enfants, ils seront obligés alimentaires, et comme ça, ça ira mieux. Donc voilà, ce schéma un petit peu comique, je ne sais pas qui c'est qui l'a fait, parce que j'arrive pas de solidarité intergénérationnelle. Ce qui est très important, et j'en finirai là, parce qu'après, on écoutera Benoît, et puis ça sera un débat collégial, c'est capital, c'est d'essayer de ne pas s'isoler, même s'il y en a certains qui sont les rois pour s'être isolés. Je suis toujours pris au dépourvu quand on hospitalise dans le service quelqu'un qui a 85 ans, qui vit comme un ermite, et tout d'un coup, on a mis le doigt sur cette personne. Elle se retrouve hospitalisée, prise en charge, et après, nous, on a envie de totalement changer son environnement parce qu'on est stressé et qu'on veut rendre les choses sereines. En même temps, il y a la liberté d'aller et venir. Et cette personne, jusqu'à 85 ans, elle a vécu dans certaines conditions et elle en a survécu. Donc c'est toujours très compliqué quand même d'adapter ces progrès qu'on est capable de faire, ces offres de services qu'on est capable de faire en France. Et parfois, probablement, qu'on veut imposer des choses et c'est peut-être pas la chose la plus intelligente qu'on fasse. En tous les cas, si quelqu'un ne veut pas s'isoler, si quelqu'un accepte d'être signalé, aujourd'hui, dans ce puzzle, on peut mettre énormément de choses. Énormément de choses. Il y a le médecin traitant, qui reste une pierre angulaire, mais certains de nos co-citoyens sont des spécialistes du nomadisme médical. Il y a l'environnement familial. Il est précieux, même s'il y a toujours des histoires de famille, c'est précieux. Il y a le lieu et le mode de vie. Il y a tout ce que les réseaux peuvent faciliter. Vous avez les assistantes sociales qui font un boulot fabuleux à l'hôpital, fabuleux en ville pour les gens plus jeunes, mais qui sont très importantes. Vous avez les systèmes de protection juridique. C'est pas drôle de se voir entendre qu'il faut avoir une curatelle, voir une tutelle, voir une autre mesure. Il n'y a pas de raison de décider brutalement, mais on sait aussi que parfois, il faut que ce soit en urgence, parce qu'il y a des gouffres financiers où c'est capital pour la sérénité de tout le monde. Vous avez tout un tas de spécialistes, diététiciens, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, j'en passais des meilleurs, des possibilités d'accès à des services de médecine aiguë, des services de soins de suite et réadaptation, des possibilités d'accès à tout un tas de consultations spécifiques, chute, mémoire, escarre, oncologique. Vous avez possibilité d'avoir accès à des unités de soins de longue durée, aux entrées en établissement pour hébergement pour personnes âgées dépendantes, même si ça a un coût qui est problématique pour aujourd'hui et encore plus pour l'avenir. Vous avez tout un tas d'intervenants, l'aide à domicile, les centres d'action sociale pour vous aider. Donc aujourd'hui, quand même, on a tout un tas de pièces du puzzle. Pour une personne qui accepte d'être signalée, pour une personne isolée qui ne veut pas rester isolée, on a bien des possibilités d'améliorer le quotidien, de le rendre plus serein pour le patient, et puis pour le conjoint et pour la famille. Parce que ce qui est incroyable... Moi, c'est jamais les patients de gériatrie qui me posent problème. C'est leur famille. On est tous dans un déni incroyable. Je suis d'une perversité sans nom. Quand je fais passer les tests de mémoire, les enfants, en général, demandent à partir. Non, je dis rester. Et de manière un peu brutale, je leur fais réaliser les lacunes de leurs parents. C'est terrible, mais c'est le seul moyen qu'ils puissent comprendre la vulnérabilité. Et eux, ils peuvent rien, ils habitent à Nice, ils peuvent habiter même à Biarritz, c'est pas un problème. Ils peuvent pas être 24 heures sur 24 avec leurs parents. C'est ainsi. Mais une fois qu'on a connaissance de la vulnérabilité d'autrui, eh ben, il y a plein de choses qu'on peut faire. C'est plus facile quand la personne en question accepte d'être aidée. C'est plus long quand elle n'accepte pas. Mais aujourd'hui, même si c'est pas parfait, même s'il y a toujours des soucis géographiques, des soucis financiers, on peut être aidé, on peut être plus serein. Et je pense que c'est comme ça qu'on a envie de tous vieillir, la manière la plus sereine possible. Voilà, j'arrête là, sauf erreur. Je passe le micro à Benoît, et puis à disposition, bien sûr, pour réaborder le sujet.
On va enchaîner, et puis on débattra.
Bonsoir à tous. Merci au docteur Bouet de m'avoir invité. Merci à l'association de m'avoir convié ce soir. Donc, parler après un médecin, c'est pas forcément évident. Qui plus est de la vieillesse, de la personne âgée. Alors, excusez-moi de prendre le rôle de professeur de philosophie, c'est-à-dire de conceptualiser, de poser des problèmes, et c'est-à-dire plus des questions que des réponses. Alors d'abord, première question qui se pose, c'est qu'on parle de senior, on parle aussi de personne âgée, on parle aussi de vieux, de vieillard, bref. De quoi parlons-nous ? De quoi parlons-nous derrière ces mots ? Donc d'abord, parler de la personne âgée, c'est un problème de langage. Alors on parle maintenant de troisième âge, quatrième âge, cinquième âge, mais on voit véritablement que derrière cela se jouent des notions de répartition sociale, de répartition économique, de répartition administrative, de répartition de prise en charge, maintenant on dit de prise en soin. En tout cas, c'est un premier problème que je vous soumets, une question de langage. Deuxième chose, c'est que ce langage est toujours crypté. On ne parle jamais directement de la personne âgée, mais on parle toujours par métaphore de la personne âgée. On parle de phénomène biologique de vieillissement. On parle du vieillissement lié à la perte d'autonomie. On parle aussi de dépendance. Donc on voit véritablement que la vieillesse parle de modification fonctionnelle, mais pas véritablement du processus en lui-même. On parle du processus biologique sans forcément évoquer une perte du sentiment d'être, une perte du sentiment de soi. Donc, un vieillard n'aurait qu'un organisme. Un vieillard n'aurait, par ce langage, qu'un corps. Deuxième idée pour aborder la personne âgée en lien avec la santé publique, la vieillesse est toujours abordée comme un naufrage. Un naufrage puisque le premier concept que l'on trouve dans la littérature, la vieillesse serait une dégénérescence. Alors un concept très vague. Par dégénérescence, on voit d'abord un phénomène complexe. On l'a vu tout à l'heure, c'est-à-dire quelque chose de génétique, mais aussi biologique, mais aussi lié à un ensemble d'autres facteurs. Donc là, ici, ça veut dire que la vieillesse, d'emblée, est quelque chose à repousser, quelque chose que je dois faire mien, puisque je suis orienté vers ma vieillesse, et en même temps, quelque chose que je véritablement dois repousser. Deuxièmement, c'est aussi un mal inguérissable, puisque je peux traiter quelques aspects organiques liés au vieillissement, mais je ne peux pas traiter en lui-même le vieillissement. Donc je peux lutter contre certaines maladies bénignes, lutter contre certains mal de dos, modifier des conditions de vie. On a parlé des assistants de service social, mais véritablement impossible de lutter, de guérir contre la vieillesse. Donc ça veut dire qu'ici, on va chercher à masquer, à maquiller la vieillesse. Finalement, vieillir, ce ne serait pas une évidence. C'est un naufrage, phénomène complexe, et en même temps, ce n'est pas véritablement une évidence. Le naufrage de la vieillesse, ça veut dire quoi ? Au-delà de la dégénérescence organique. Ça veut dire une perte de soi, et là on rejoint vieillesse en tant que sénilité. C'est-à-dire une perte progressive de ses moyens. Donc là, véritablement, on voit qu'il y a une sorte de déception, une sorte de jugement moral qui est porté sur la personne âgée. Dégénérescence organique, puis dégénérescence en tant que naufrage, c'est une conception réellement morale. Je cite le général de Gaulle, parlant du maréchal Pétain, « La vieillesse est un naufrage. Pour que rien ne nous fût épargné, la vieillesse du maréchal Pétain allait s'identifier avec le naufrage de la France. » Donc là, vous voyez bien le jugement moral. Ça veut dire que le jugement ici que porte le général de Gaulle, c'est quelque chose qui accuse, mais qui accuse quoi ? Une maladie tragique. Donc un naufrage est en même temps conçu comme une maladie morale, comme une maladie de l'être, de soi. Troisième idée, c'est que cette dégénérescence, ce naufrage, rend dépendant. Rend dépendant, ça veut dire que vieillir, c'est dépendre. Dépendre quoi ? De son corps, avec la perte de certaines facultés. Deuxièmement, c'est éventuellement dépendre de son esprit, avec éventuellement la sénilité, certaines maladies dégénératives. Mais c'est aussi dépendre des autres, donc créer une autre sociabilité, voire pour certains régresser. Alors on remarque aussi une progression de la vieillesse, puisque la question qui nous est posée relève aussi de la place sociale et de l'image sociale de la personne âgée. Quel statut de la vieillesse aujourd'hui est encore, j'ose une question un peu plus, je dirais, choquante, est-ce que la personne âgée a encore une place dans notre société ? En effet, quand on regarde l'évolution, on voit qu'on pense le vieillissement toujours comme un drame, comme un fardeau. Le vieillard, c'est celui qui est dans certaines structures que l'on place. Le vieillard, c'est celui qui déjà n'est plus productif, n'est plus rentable. Le vieillard, c'est quelqu'un qui n'est plus comme les autres. C'est celui qui va traîner les pieds, c'est celui qui va aller lentement. Donc on voit ici qu'il y a une discrimination d'emblée de cette vieillesse vécue comme naufrage. Donc vous avez une image d'une société jeune, le jeunisme, face à une dégénérescence vécue comme négatif. Ça veut donc dire que la vieillesse est véritablement dévalorisée. Dévalorisée, mais uniquement par rapport à la jeunesse. C'est-à-dire qu'on pense la société de façon dichotomique. D'un côté, les jeunes, et de l'autre côté, les vieux. Tout se passe comme si il n'y avait, malgré plusieurs répartitions, notamment faites par l'INSEE, de la population, tout se passe comme si il n'y avait que deux catégories. Soit on est jeune, soit on est vieux. Citons Simone de Beauvoir dans La vieillesse. Toute société tend à vivre, à survivre. Elle exalte la vigueur, la fécondité liée à la jeunesse. Elle redoute l'usure et la stérilité de la vieillesse. Usure et stérilité. Le jeune ne s'use pas, il est performant, il est fécond, alors qu'au contraire, le vieux est véritablement infécond. Et on voit que cette conception a de tout temps existé, puisque cette pensée de Simone de Beauvoir se retrouve chez des auteurs bien plus anciens, des Platon, des Aristote, et même dans les écrits beaucoup plus anciens, notamment chez Sophocle, chez Euripide, on retrouve cette affirmation. Ça veut dire qu'il y a une sorte d'évidence culturelle. La jeunesse serait préférée à la vieillesse. Alors, que la jeunesse soit préférable à la vieillesse, cela se comprend. Mais là, véritablement, on passe à une sphère morale, à la notion de valeur. On pose une valeur sur la vieillesse, c'est-à-dire que la jeunesse est de fait moralement préférée à la vieillesse. Donc on voit ici que, eh bien, on ne peut pas se voiler la face. La vieillesse est pénible, la vieillesse ne peut pas être heureuse, et pourtant nous sommes de plus en plus nombreux à vieillir, et il y aura globalement en 2020 plus de 15 millions de plus de 75 ans en France. Relisons Simone de Beauvoir. Si les vieillards manifestent les mêmes désirs, les mêmes sentiments, les mêmes revendications que les jeunes, ils scandalisent. Chez eux, l'amour, la jalousie semblent odieux ou ridicules, la sexualité répugnante, la violence dérisoire. Ils doivent donner l'exemple de toutes les vertus. Avant tout, on se réclame d'eux la sérénité. On affirme qu'ils la possèdent, ce qui autorise à se désintéresser de leur malheur. L'image sublimée qu'on leur propose d'eux-mêmes, c'est celle du sage auréolé de cheveux blancs, riche d'expérience et vénérable, qui domine de très haut la condition humaine. S'ils s'en écartent, alors ils tombent en dessous. L'image qui s'oppose à la première, c'est celle du vieux fou, qui radote et extravagante, et dont les enfants se moquent. De toute façon, par leur vertu ou par leur abjection, ils se situent hors de l'humanité. Je recite la dernière phrase. De toute façon, par leur vertu ou par leur abjection, ils se situent hors de l'humanité. Donc là, on voit bien que non seulement la jeunesse est préférée à la vieillesse, mais que la vieillesse est un poids. C'est un poids, puisque la vieillesse ne peut pas d'elle-même de fait, puisqu'elle elle prend le poids d'une valeur, elle ne peut pas s'affranchir de clichés. Elle ne peut pas s'affranchir des images qu'elle véhicule et qui se colportent. Problématique, eh bien, tout se passe comme si la vieillesse n'avait pas droit à l'objectivité. Tout se passe comme si on ne pouvait pas penser la vieillesse en elle-même, mais que, depuis Platon, depuis Aristote, depuis Euripide, nous colportions toujours des images absolument négatives. La vieillesse n'est jamais considérée en elle-même, la vieillesse n'est jamais considérée pour elle-même. Elle est toujours considérée malgré elle. Et d'ailleurs, vieillesse et santé publique, pourquoi vieillesse et santé publique? On pourrait très bien dire santé de la population française et mesure de santé publique. Vous voyez bien que là, déjà, le fait de mettre dans le titre grand âge et santé publique, derrière l'artifice grand âge, eh bien, il y a la notion de valeur et qu'il y a la notion de adaptons plus ou moins les mesures de santé publique subjectives face à une notion que l'on ne peut pas objectiver. Alors, quels sont les différents facteurs qui entrent en jeu pour définir le statut social du vieillard, si on ne peut pas le penser en tant que tel? Premier facteur subjectif pour penser le vieillard, c'est la fragilité physique. On en a parlé tout à l'heure. Il ressort que la condition des vieux, condition du vieillard, sera plus mauvaise dans les sociétés les moins policées, les plus anarchiques, puisque justement, ces sociétés reposent sur la loi du plus fort, sur la loi du talion. Et on voit ça notamment à l'époque mérovingienne en France. Deuxième facteur de subjectivité pour penser la vieillesse, eh bien, c'est la composition de la vieillesse elle-même. C'est la connaissance et l'expérience venant de la durée. C'est-à-dire que le vieillard ne se saisit en lui-même, le grand âge ne se saisir en lui-même que subjectivement par la connaissance de ce qu'il en a et l'expérience qu'il en fait. Tout se passe comme si la gérontologie parlait de façon totalement abstraite. Seul le vieillard pourrait véritablement parler, mais subjectivement. Troisième facteur, l'altération des traits physiques. On pourrait parler de déficience ou d'incapacité, qui va justement composer la vieillesse, mais de façon dévalorisée. Donc ça veut dire ici que nous pensons la vieillesse par rapport au culte de la beauté. Nous pensons la vieillesse contre le botox, contre la chirurgie esthétique. Et on le voit déjà dans l'Antiquité grecque. On accuse notre société, on accuse la médecine brésilienne, mais dès la société grecque, on pense le vieillard par rapport à la jeunesse, le jeune qui est en bonne santé, le jeune qui a un beau corps. Si on relit Platon, on voit justement cette dichotomie. Donc finalement, si je relis ces trois facteurs que l'on vient de voir ensemble, je pense et je ne peux penser la vieillesse que subjectivement par rapport à une réalité symptomatique qui est celle de la dépendance. Je ne peux penser la vieillesse que par la fragilité. Je ne peux penser la vieillesse que par rapport à une vulnérabilité. Dépendance, fragilité, vulnérabilité, ces mots sont subjectifs. Alors on peut essayer de les coter, on peut essayer de les quantifier avec des échelles de qualité de vie, avec des échelles qui vont plus ou moins normer, mais encore une fois, eh bien, je ne tiens pas compte de la vieillesse de cette personne-là, je vais plus ou moins généraliser. Ça veut donc dire ici que eh bien, la vieillesse est un naufrage, les vieux sont des épaves, tel parlait Chateaubriand. La vieillesse est un naufrage, les vieux sont des épaves. C'est-à-dire que non seulement le vieux est dépendant, mais en plus, il doit avoir honte de lui-même. L'épave, dans cette phrase de Chateaubriand, renvoie à quoi ? Renvoie à l'image de débris, tout simplement. C'est-à-dire qu'on accuse le vieillard, après lui avoir fait porter une valeur négative, après ne pas pouvoir l'aborder objectivement, on l'accuse véritablement d'être un débris, d'être lui-même, une perte de lui-même. Conséquence, la vieillesse serait donc une phase pénible, incontournable, ça c'est obligatoire, c'est le son de notre vie, mais on y rajoute une phase pénible et incontournable qui serait vouée au déboire, qui serait vouée aux frustrations, qui serait de fait vouée à l'échec. Citons Benoît Groulx dans La Touche étoile. Il est aussi pénible d'être âgé que d'être obèse. Avec cette différence, point de suspension, de taille, point de suspension, on voit l'humour de Benoît Groulx, que la vieillesse est sans remède. En plus d'ouvrir la porte à bon nombre de maladies, la vieillesse est une maladie en soi. Il importe donc de ne pas la contracter. On voit ici, non sans ironie, véritablement qu'il ne faut pas contracter cette maladie. Or, pourtant, cette maladie, non seulement je ne peux pas y échapper, mais en plus, elle est fatale. Et en plus, troisièmement, elle se développe de façon tyrannique. Elle se développe de façon absolue. Donc le naufrage surprend, le naufrage nous condamne. Et véritablement, eh bien, les choses ne s'amélioreront jamais. Je deviens véritablement un débris. Perte d'indépendance, perte de liberté. De plus, penser le grand âge en termes véritablement de concept, c'est penser le vieillissement ici, vous voyez bien, comme un mal, une condamnation, une maladie que je ne devrais pas contracter. Un mal visible, la personne âgée, oui, parce que cette personne âgée porte la marque du temps, la trace du temps. C'est quelqu'un qui, justement, ne peut pas échapper, et même si elle tente d'échapper, il y a toujours des stigmates qui vont plus ou moins apparaître. Dans l'éducation sentimentale, Flaubert achève son roman par une répulsion, véritablement, qui va balayer l'image de la femme. Alors vous avez justement le héros Frédéric, eh bien, est très proche de Madame Arnoux. Et à la fin du roman, voilà comment Frédéric redécouvre Madame Arnoux. Quand ils rentrèrent, Madame Arnoux ôta son chapeau. La lampe, posée sur une console, éclaira ses cheveux blancs. Ce fut comme un heurt en pleine poitrine. Un coup de poignard. Flaubert nous décrit ici le vieillissement comme une trace du temps vécu comme un coup véritablement de poignard. C'est-à-dire que ici, la lumière ne laisse planer aucun doute. Cette mèche blanche se dresse comme l'ultime barrière, l'ultime signe que déjà le temps est en train de faire son œuvre. Donc la vieillesse nous ramène à notre condition humaine. Condition humaine à laquelle nous ne pouvons pas nous soustraire. Le temps passe, et le temps est la marque indélébile, le temps est la marque inéluctable, irrémédiable de véritablement notre existence. Alors, je parlais de Flaubert 19e, on fait un grand bond, Héraclite, un des premiers philosophes. Le temps de notre vie est un enfant qui joue et qui pousse des pions, c'est la royauté d'un enfant. Encore une fois, on pense la vieillesse en dichotomie par rapport à la vieillesse. Deuxième idée de cette vieillesse conçue comme un mal, c'est un corps qui s'étiole. Non seulement la vieillesse ne peut être vaincue, mais une autre caractéristique de la vieillesse repose sur une visibilité, c'est-à-dire que je perds ma vigueur, mon corps devient lent, mon corps devient faible, mon corps est difficile à accepter, bref, de plus en plus un écart se joue entre mon corps et mon esprit. De plus en plus, il y a un divorce, une séparation entre mon corps et mon esprit. Et là se joue le deuxième mal, la deuxième condamnation dans le vieillissement, c'est-à-dire un divorce entre le corps et l'esprit, c'est le drame du vieillissement. Je suis dans mon corps, ça ne fait aucun doute, mais en même temps, si c'est bien en lui que je vis, eh bien le miroir que j'ai en face de moi a du mal à dire c'est moi, et ce corps-là ne bouge pas comme je le souhaiterais. Et ce corps-là me laisse véritablement dans une situation d'intranquillité, puisque véritablement, il me fait mal, il me fait souffrir, il me raidit, il me ralentit. Alors c'est Nietzsche qui, de façon très ironique, comme Benoît Groulx, rappelle à ceux qui pensent leur vie par leur corps, eh bien qu'il faut se défaire de cela, et il aime justement à ceux qui veulent penser, à se penser étranger à leur corps, cette phrase, dans Ainsi parlait Zarathoustra, ils n'ont qu'à s'en défaire, cela les rendra muets. La seule possibilité qu'on aurait à vivre, eh bien, c'est de vivre comme des purs esprits. Mais nous sommes des êtres corporels, nous sommes des êtres matériels, avant d'être des êtres spirituels, si tant est qu'on puisse l'être. Donc, véritablement, ici, on ne peut que aborder ça de façon très ironique ou plutôt de manière très très idéaliste. Alors, évidemment, ici, on ne voit que des représentations erronées de la vieillesse. Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de sauver quand même la vieillesse? Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de trouver des conceptions qui ne soient pas des valeurs, qui ne soient pas des données subjectives et qui ne soient pas non plus des condamnations telles le mal? Eh bien, on peut dire que la vieillesse est naturellement bonne. Première conception, et cette conception qui soutiendrait que la vieillesse, le grand âge, est naturellement bon, cela nous vient de Platon, de la philosophie dite classique. Dans la République, eh bien, on parle de Socrate qui vient de faire à pied pratiquement 8 kilomètres, et ça ne trouble absolument pas Socrate, et voilà ce qui est écrit. À proportion de l'affaiblissement des autres plaisirs, ceux de la vie corporelle, d'autres s'accroissent. Quant aux choses de l'esprit, mes besoins et mes joies. Donc ça veut dire que certes, la vieillesse est un déclin. Certes, la vieillesse est une sorte de traumatisme, une transformation. Mais qu'en même temps, c'est une compensation. Alors compensation de quoi? Eh bien compensation inédite dans le déroulement de la vie. Plus le corps perd, plus l'esprit gagne. Gagne ici pour Platon en maturité et en acuité. Donc la vieillesse, finalement, ce serait une sorte d'exercice pour atteindre la profondeur, l'intensité. Alors on trouve la même chose à la suite du texte, où justement il y a un dialogue entre Socrate et Céphale. Je vous renvoie véritablement à ce texte de la République pour véritablement percevoir au mieux le fait de voir cette vieillesse comme une amélioration réellement de l'esprit. Mais cependant, gardons-nous des clichés. La vieillesse n'est pas pour autant une sagesse. La vieillesse ne rime pas avec sagesse. C'est souvent quelque chose qui est un petit peu répété dans l'histoire. Le vieux serait une sorte de chef, de sage ou de vieux stoïcien qui serait à même de bien poser le curseur entre un extrémum et un minimum. L'ancien serait auréolé d'un charisme. L'ancien serait à consulter pour des choix que nous aurions à opérer. Absolument pas. Chez les Grecs, eh bien, il s'agit de travailler les capacités spirituelles, les capacités intellectuelles. C'est-à-dire que plus on est vieux, plus l'esprit fonctionne mieux. Mais c'est pas pour autant que l'on devient sage. Alors, Aristote dit à peu près la même chose. Il nous dit que plus, au contraire, je vieillis, plus, eh bien, je ne pense pas mon corps et mon esprit, mais je donne priorité à mon esprit sur mon corps. C'est-à-dire que plus je travaille mon esprit, plus je me détache de mon corps, eh bien, plus je vais véritablement développer mes capacités. Alors, pour Aristote, dans le De Anima, on est vieux à partir de 50 ans. Alors, nous sommes au moins 3e siècle, moins 4e siècle avant Jésus-Christ. Et il nous dit, l'esprit, tout comme le corps, est soumis à la vieillesse, mais véritablement, il est invité à la gérousie. Alors, la gérousie qui va donner justement le terme de gérontologie. Alors, qu'est-ce que cette gérousie? C'est une sorte d'assemblée qui est composée à peu près d'une vingtaine de personnes âgées, mais qui ne sont pas considérées comme des sages. C'est pas l'ancêtre du Sénat. C'est pas véritablement les représentants d'une certaine expérience, d'une certaine localité. Non, c'est pas ça du tout. C'est des personnes qui, au contraire, sont détachées et ont de l'expérience et sont beaucoup plus à même de faire travailler leurs capacités intellectuelles. Donc, c'est ceux qui, justement, vont trancher les différends. C'est ceux, véritablement, qui ont eu du mérite. C'est ceux qui, justement, qui peuvent porter la couronne de laurier sur la tête, puisque véritablement ils ont été célébrés par leur fée. Donc vous voyez bien ici qu'on ne pense plus la vieillesse en termes de sagesse, ni en termes d'opposé à la puérilité ou en termes de jeunesse, mais on la pense véritablement comme reconnaissance des mérites et exercice des mérites. Voilà comment il faut penser l'exercice de la vieillesse comme spiritualité. Alors, Aristote, quand même, qui est quelqu'un de très concret, je ne résiste pas à vous citer cela, se montre tout de même impitoyable face à cette gérontologie, cette assemblée de sages, puisque dans un autre livre, dans l'Éthique à Nicomaque, donc c'est une éthique à son enseigné Nicomaque, donc là je vous cite, « Les vieux sont avares, ils ne connaissent pas l'amitié des intéressés, ne cherchant que ce qui peut satisfaire leurs besoins égoïstes, ils ne s'attachent qu'à ceux qui peuvent leur être utiles. Chez eux, l'amour disparaît par lassitude et ne subsiste que par habitude. Leur caractère difficile rend de toute façon la naissance d'une véritable amitié très aléatoire. » D'accord ? Donc vous voyez bien que il n'y a pas véritablement de psychologie dans l'Antiquité grecque, mais il s'agit de cultiver les capacités intellectuelles, les capacités de l'esprit, mais évidemment sans pour autant nier une personnalité, un caractère, une sorte de vie quotidienne du vieillard qui peut se révéler Tati Daniel ou oncle Robert. Et dans la rhétorique, il va encore plus loin, il fait un portrait absolument remarquable du vieillard, où il nous dit, portrait repoussoir, totalement, où il accuse les vieux de tous les défauts. Alors, je cite, « Ils sont timorés, hésitants, soupçonneux, parcimonieux, craintifs, poltrons, égoïstes, pessimistes, bavards, avares, chagrins, et j'ai perdu... » Voilà, c'est la fin de la citation. Vous imaginez là que... Donc, bien comprendre cette vieillesse, non pas en tant que caractère, non pas en tant que, je dirais, résultante de personnalité, réaction, conduite de défense, dirait Freud, face à ce corps décrépitude. Ça n'empêche pas cela, mais en tout cas, on peut développer des capacités véritablement, à proprement parler, spirituelles. Donc finalement, le vrai visage de la vieillesse, il faudrait en finir avec les clichés, puisque il me semble que vieillir veut dire réaménager sa vie. Vieillir veut dire réaménager sa vie, c'est-à-dire au final, eh bien, considérer que moi, individu vieillissant, je vais avoir un nouveau rôle social, je vais investir un nouveau rôle social. Je ne serai pas productif, peut-être au sens économique, mais je serai productif dans un autre sens. Peut-être que justement, dans une société grecque où on majorait l'activité spirituelle, dans une société moyenâgeuse où on majorait l'activité guerrière, dans notre société actuelle hyper libérale où on majore un peu trop véritablement la rentabilité, la productivité, eh bien peut-être que il faudrait revoir ce réaménagement du temps. Finalement, il s'agirait de réagir face à cette perte corporelle pour réinvestir de nouveaux rôles. Nouveaux rôles et donc créer de nouveaux. Et on voit que les personnes âgées se créent de nouveaux rôles. On voit que les personnes âgées investissent de nouveaux champs. Le champ associatif, mais aussi le champ économique, mais aussi le champ de l'entraide, le champ véritablement de l'humanité. Donc finalement, ce naufrage n'est pas tant un naufrage. C'est un sentiment de déprise. Mais derrière ce naufrage, il peut y avoir réaction et il peut y avoir au contraire création d'une nouvelle vie. Deuxièmement, il nous faut revoir le langage de la vieillesse. Il nous faut revoir redéfinir la vieillesse et réinventer un nouveau langage de la vieillesse, puisqu'on le pense toujours par rapport à la puérilité, on le pense toujours par rapport à la jeunesse. Je suis assez surpris quand on s'adresse, je visite pas mal les EHPAD pour des raisons de recherche, et j'entends souvent « alors mon petit monsieur, alors mon petit papy, on va manger la petite assiette, et puis après on fera la petite piqûre, et après on prendra le petit médicament. » Ou alors « bonjour monsieur X, on est prêt à partir, on a bien préparé ses petites affaires, on s'est bien couvert, le « on ». Donc il nous faut réinvestir cette personne âgée, puisque regardez bien, par l'attitude soignante, infantilisation, et par ce « on », eh bien il y a une sorte de négation, il y a une sorte véritablement d'écartement, d'élimination du champ social, alors que la personne âgée, on vient de voir, ne demande que à réaménager véritablement sa vie. Et puis bien sûr, ce n'est pas en se masquant derrière des cosmétiques, en pensant que la vie sera toujours belle, en montrant Jane Fonda sous toutes les coutures, que véritablement on résoudra le problème. J'aimerais juste conclure avec Pascal Bruckner dans La tentation de l'innocence, pardon, qui est un livre de 95. Vieillir, c'est bientôt fini, proclame la couverture d'un magazine. Incroyable nouvelle ! Si la vieillesse n'est déjà plus qu'une question de temps, s'il est possible non seulement d'effacer les rides, de gommer les plis, de corriger les silhouettes, de réimplanter les cheveux, de retarder la sénescence, mais surtout de faire reculer l'horloge biologique, alors l'ennemi ultime, la mort, devrait prochainement être terrassée. Ce sont toutes les définitions du normal et du pathologique qui sont bouleversées. Ne pas être malade est la moindre des choses. Il faut d'abord nous guérir de cette maladie mortelle qu'est la vie, puisque celle-ci s'arrête un jour. On ne distingue plus entre les fatalités modifiables, freiner le délabrement physique, prolonger l'existence, et les fatalités inexorables, la finitude et la mort. Celle-ci n'est plus le terme normal d'une vie, la condition en quelque sorte de son surgissement, mais un échec thérapeutique à corriger toute affaire cessante. Je vous remercie.
Même vous pouvez maintenant poser les questions ou intervenir. Moi, je veux bien commencer au moins sur peut-être une question à M. Pacalin sur un peu la prévention. Vous en avez pas obligatoirement parlé, enfin, même si vous l'avez évoqué. On la commence quand ? Est-ce que la prévention, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place, ou est-ce que c'est en fait quelque chose de beaucoup plus profond qui commencerait dès le jeune âge et hein. Donc il y a cette question-là. Et puis une autre question qui s'adresse là peut-être à vous deux. Le Conseil économique et social régional a fait un rapport sur le vieillissement et sur les personnes âgées comme un atout pour le Poitou-Charentes. Et alors, dans les choses qui ont vraiment surpris, c'est qu'aujourd'hui, je vais regarder les chiffres pour être sûr de ne pas dire de bêtises, 51% des gens de plus de 65 ans sont investis dans du bénévolat, soit associatif, soit des politiques syndicales religieuses, ou du bénévolat direct et du bénévolat de proximité. Et en Poitou-Charentes, qui est une des régions dans lesquelles les citoyens sont le plus mobilisés sur les élections, la tranche d'âge qui présente le plus fort taux de participation aux élections est les 70-75 ans. Et quand on prend les conseillers régionaux, ils sont à 28% à plus de 60 ans. Les conseillers généraux sont à 55% à plus de 60 ans. Et les maires dans le Poitou-Charentes sont 59% à plus de 60 ans. Donc, c'est vrai que quand on a découvert un peu ces chiffres, qui sont des chiffres vraiment officiels, qu'on a été chercher au ministère et avec l'INSEE, on s'est demandé quand même s'il n'y avait pas un retournement par rapport à l'image là de la vieillesse qui pourrait être un naufrage. Et là, on voit que dans des lieux de décision, il y a une, malgré qu'ils sont déjà nombreux, il y a une surreprésentation des gens les plus âgés. Et je me demande si c'est pas un peu une revanche par rapport à tout ce qui a été dit sur la vieillesse et ces problématiques-là.
En termes de prévention par rapport à votre première question, donc il y a l'hétérogénéité qui fait d'où est-ce qu'on part pour, malgré le déclin, rester le plus haut possible. Donc il y a des choses hétérogènes qui se jouent pendant l'adolescence, mais ensuite on a tous les moyens de maintenir le niveau de réserve maximal. Ça s'appelle l'hygiène de vie. Ça s'appelle 5 fruits et légumes par jour. Ça s'appelle soyons gaulois, mais pas trop. Donc un verre, ça va. 3 verres, bonjour les dégâts. Ça s'appelle de l'activité physique, qui n'est pas forcément, comme je disais tout à l'heure, des activités intensives, mais même des activités pérennes souvent réalisées. Et puis ça s'appelle des activités occupationnelles. Ça, c'est la prévention. Et le bénévolat à la retraite, c'est une des meilleures choses pour faire que la réserve soit maintenu le plus longtemps possible et aider à passer le cap d'un événement difficile. Donc l'activité, c'est le plus serein dans la prévention. Tu veux peut-être, Benoît, aborder ce problème de revanche?
Revanche, je ne sais pas, mais en tout cas, dans une société qui se fonde sur des valeurs travail productif, travail rentable, travail soi-disant reconnaissance sociale, la personne âgée véritablement vit un choc, comme une dépression, la retraite. Donc il faut véritablement, face à cette non-productivité, non-rentabilité, non-reconnaissance, réagir. Et quand je disais réaménager son temps, recréer et véritablement développer ses capacités humaines, les réinvestir, eh bien, je pense véritablement qu'il y a ici, depuis à peu près 10-15 ans, revanche, je ne sais pas, mais en tout cas, conquête d'un nouveau rôle de la part des seniors. Voilà, je nomme seniors les personnes qui sont à la retraite et s'investissent. Deuxièmement, il y a une sorte de création d'une nouvelle intersubjectivité, c'est-à-dire que on crée du lien, mais du lien pour l'autre, vers l'autre. C'est-à-dire que la personne qui vient de prendre sa retraite, se réinvestit, mais elle ne se réinvestit pas pour avoir une reconnaissance, elle réinvestit pour avoir une place sociale, un rôle social, une fonction sociale, et donc recréer des liens entre personnes. On voit une personne qui va investir dans de l'aide au devoir, à la mission locale, dans du conseil, dans du tutorat. Donc véritablement, c'est une forme de redécouverte de l'humanité et de recréer du lien, de recréer véritablement un regard posé par cette personne qui est peut-être plus vieille, peut-être plus moche, peut-être plus, comme on l'a vu, grognon et tout ça, mais qui en même temps porte un regard positif sur l'autre et véritablement il y a de la création de l'humanité. Voilà comment je répondrai. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une sorte, pas de sagesse, mais d'expériences nouvelles de la vie qui se met en place, une sorte de donation. Ça serait la thèse de Paul Ricoeur qui nous explique que la reconnaissance à la fin de sa vie se passe par des donations, par véritablement du lien, mais qui est anthropologique, qui n'est pas économique du lien, qui n'est pas forcément visible, mais qui va quand même tisser quelque chose. Et ça, on le voit véritablement en fin de vie dans les services de soins palliatifs, quand justement on a l'impression que la vie n'a plus de sens et que cette donation dont je vous parle n'est plus possible, eh bien c'est là que s'effondre la personne. C'est là qu'il va y avoir des demandes contradictoires, qu'il va y avoir des colères, de l'infantilisation, du déni. Donc je parlerai de donation plus que véritablement de vengeance ou de revanche. Oh, c'est un joli lapsus que je viens de faire.
Oui, Jean.
Si on fait des comparaisons avec d'autres ethnies, d'autres civilisations, on entend dire beaucoup que dans certains pays africains, la personne âgée, c'est la référence, la sagesse. Qu'en est-il exactement ? C'est vrai ou on va raconter cette histoire ?
Il y a toujours une partie de vrai qui repose sur l'expérience et puis. L'épreuve du temps. On aime tous avoir comme confident quelqu'un qui est un peu plus âgé, qui a plus de recul, qui a plus de vécu et qui permet de transmettre son expérience pour peut-être nous aider à prendre la réaction ou l'attitude la plus adaptée. Mais c'est vrai que dans les pays africains, ça prend encore plus de valeur. Il y a un respect de l'ancien qui est extraordinaire. L'élection du pape, c'est compliqué.
S'il est bon, c'est dommage.
Si on lit les écrits de l'anthropologie, on voit qu'actuellement, il y a une différence entre les pays du Nord et les pays du Sud. Je parle en géographie, j'aime pas les notions de développer. Il y a une répartition, c'est-à-dire que nous avons investi l'enfant. Et quand on arrive dans une famille, on va s'extasier devant l'enfant, on va gagater devant l'enfant. Et éventuellement, on dira bonjour à la personne âgée, dépendante, dans son fauteuil. Chez l'Africain, c'est l'inverse. On va d'abord saluer la personne dépendante, âgée, handicapée. Et ensuite, on va saluer les hommes, les femmes, et ensuite l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant n'a pas véritablement de statut. Donc ça veut dire que ce que nous vivons aujourd'hui est le produit d'une histoire culturelle, d'une évolution juridique en même temps. Quand on regarde au XVIIIe siècle, la mort absolue, le crime absolu, c'est la mort du roi. Aujourd'hui, on voit que dans la manière de penser le juridique, le crime absolu, c'est la mort de l'enfant. Donc il y a tout un processus qui a eu lieu dans les sociétés du Nord qui est en train de se faire différemment dans les pays du Sud. Alors je ne dis pas qu'il ne s'agit pas de faire le discours de Dakar, hein. Je ne dis pas absolument ça, je pointe juste les travaux de l'anthropologie. Deuxièmement, si on consulte le sage, c'est parce que on a toujours une conception plus ou moins animiste, c'est-à-dire que le sage, on ne va pas forcément le considérer comme doté d'une expérience, doté d'un pouvoir spirituel, mais il a quelque chose qui dégage. C'est-à-dire que la personne âgée, c'est pas quelqu'un qui a de l'expérience, qui sait, qui va conseiller, c'est quelqu'un qui a une sorte d'auréole, c'est quelqu'un qui a une sorte d'esprit supérieur à, même s'il est pratiquement mort, même s'il est handicapé, déficient ou autre. Il y a une sorte véritablement de statut qui fait que parce qu'il a davantage vécu, il sait davantage. C'est en termes de savoir et non pas en termes de sagesse, comme je l'ai dit. Voilà comment je vous répondrai. Après, pour l'élection du pape, je botte en touche.
Tout ça, c'est vraiment quelque chose qui est
ça va, on est en train de repousser l'âge de la retraite parce qu'il faut continuer à être productif, au lieu peut-être de dire on laisse la retraite à l'âge calé et on valorise ce qui se passe, par exemple, au niveau associatif, au niveau de l'aide scolaire, enfin, de tout ce que font aujourd'hui les personnes âgées. Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux valoriser ça, cette charnière que vous avez parlé, parce que en retraite, moi je vois très bien ce passage de actif, non actif, comme chômeur, non chômeur, hein, cette étiquette posée fatalement sur la personne qu'il porte gravée dans son, sur elle jusqu'à la fin de sa vie. Est-ce qu'il n'y aurait pas une valorisation sur qu'est-ce que vous allez être à la retraite dans pas longtemps ? C'est bien. Non, mais qu'est-ce que vous allez faire ? Qu'est-ce que vous allez apporter à la société ? Comment valoriser ? Et c'est vraiment ça, c'est ce côté un peu pessimiste de me dire, est-ce que réellement on peut changer la vision des choses et réellement changer notre vision du grand âge et valoriser au contraire, de voir ça comme une continuité et non comme le déclin qui continue et qui va s'accentuer le plus rapidement possible. C'est vraiment, enfin moi je me pose vraiment la question, est-ce que vraiment on a les capacités où on va mettre des pansements sur quelque chose qui inévitablement, cette angoisse de la mort en plus qui augmente avec l'âge et les pathologies qui vont arriver, c'est vrai que ça devient compliqué. Je reste quand même un peu négatif sur ça. Est-ce que réellement on peut changer notre vision des choses alors que dès notre enfance, on est martelé dans notre société de voilà, actif, non actif, il faut être beau, il faut être. Et, c'est quand même ancré dans notre. Il y a le côté génétique, mais le côté environnemental, il est quand même là. Et j'ai l'impression qu'on ne se défera jamais de ces liens si on ne change pas aussi notre vision, déjà dès la racine, dès le début.
Moi, je crois que c'est une réflexion qui est très bien, ce que vous dites là. Mais le problème, je ne sais pas s'il faut qu'on attende que la société propose ça. C'est peut-être de nous-mêmes, de par le bénévolat, ou d'aller chercher une valorisation qui n'est pas forcément financière, mais une valorisation qui permet de mettre un petit peu de lumière sur ce qui est plus sombre ou admis plus sombre.
Ce que vous évoquez ici comme possibilité, ce serait une société du care. Alors c'est un courant philosophique qui s'est développé aux États-Unis par une psychologue, Carole Gilligan, que vous connaissez peut-être, qui a travaillé sur le travail des femmes. Et elle a remarqué que dans 95% des cas, au moins, les infirmiers, les assistantes maternelles et je ne sais plus l'autre profession étaient véritablement des femmes. Donc question, est-ce qu'il n'y a pas une capacité à investir, à materner dans ces métiers-là? Et ces travaux-là ont été repris dans les années 80 par Joan Tronto, qui écrit un livre qui est traduit comme « Pour un monde vulnérable ». Et Joan Tronto nous explique que il faudrait repenser le soin, non pas en tout cure, un soin technique, un soin normé, un soin économique, mais en tout care, c'est-à-dire un prendre soin. Donc, ce que vous êtes en train de nous dire ici, c'est qu'il faudrait partir non pas des conférences de consensus, de la qualité, de tout ce qui est normé et qui est garant aujourd'hui d'une bonne médecine, mais repartir des besoins de la personne, c'est-à-dire individualiser le soin. Donc ça nécessite véritablement de changer totalement. Et quand on voit l'organisation des EHPAD, la plupart du temps avec pas d'infirmier le week-end, un psychologue quand on peut le payer qui est à quart-temps, tiers-temps. Voilà. Dans le plan Alzheimer, tous les nouveaux soins sont reconnus comme l'art thérapie par exemple, il n'y en a jamais. Tout ce qui est soins de confort, etc. Donc véritablement, il s'agit de dans tout à fait. Mais il n'empêche que ça veut dire que il faut aussi que le soin soit moins technique et plus humanisant. Quand on voit les études au moment de la fin de vie, c'est-à-dire à J1 jour, J2 jour, que demande la personne ? Certainement pas des tuyaux. Elle veut juste être présentable pour embrasser. C'est tout ce qu'elle veut. Elle ne veut pas forcément manger, elle ne veut pas forcément Donc vous voyez que même dans le soin que l'on fait dans les EHPAD, le fait de manger, le fait d'investir, le fait de... on force encore les personnes. Donc là, il faut revoir, redéfinir l'humanité si vous voulez partir d'une autre conception du soin. Alors là, j'imagine il faut trouver de nouveaux métiers, il faut retrouver, redéfinir les tâches pour l'infirmier, pour le médecin. Évidemment, c'est investir de l'argent dans justement ce qui est improductif, si ce n'est d'humanité. Voilà, à l'heure où on se pose la question du sens de la fin de vie, je ne suis pas sûr qu'on aille véritablement dans cette option-là.
Et donc, vous voulez pas qu'on... je ne vous soigne pas ? C'est non-assistance à personne en danger ? Non, parce que là, moi j'entends tout ce que vous dites, il y a plein de bon sens, mais c'est une vision EHPAD-centrée. Et donc là, on se rapproche à une proportion de la population qui n'est pas nulle, qui est déjà trop conséquente, mais qui ne représente pas non plus la majorité. Mais il faut valoriser... mais il faut valoriser tout le monde, dont les métiers qui... Parce que ça, pardon, il y a énormément de ressources. Vu cette longévité, il est grand temps de valoriser tous ces métiers qui concourent à avoir la qualité de vie optimale, quoi. Mais le nerf de la guerre... Oui ?
Non, il y avait la dame, madame.
Ah, pardon.
Et qu'on a une population qui est jeune vieux, et on a les vieux.
Ouais, c'est ça.
Ceux-là, ils sont complètement dépendants, et je me demande la prise en charge en termes de jeunes vieux et des vieux. Est-ce qu'il y a la même prise en charge vraiment des deux populations, et est-ce que c'est la même prise en charge à Saintes, à Paris et à Bordeaux?
Alors, l'âge, je m'en fiche. Être vieux, c'est en moi-même. Je me sens vieux ou je me sens pas vieux? Et on connaît tous des gens octogénaires qui pètent le feu et d'autres bien moins âgés qui font vieux. Donc déjà, c'est la perception personnelle. Si je veux me sentir vieux, c'est comme si je veux me sentir fatigué ou autre. Donc au niveau plus médical, c'est plus le cumul des pathologies. D'accord? Quand les pathologies commencent à s'accumuler et sont corrélés au nombre de médicaments pris au quotidien, là, c'est le côté un peu gériatrique. Et en tous les cas, nous, on soigne ces gens qui cumulent les pathologies, qu'ils aient 75 ans ou 90 ans. D'accord ? Donc, je ne me fie jamais à l'âge, moi, personnellement. Voilà. Après, vous avez dit plein de choses, j'en ai oublié... Mais, ah oui, alors, en France, on est quand même pas trop mal lotis. Il y a des déserts médicaux dans la Creuse. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un médecin généraliste accessible. Mais en France, il y a une homogénéité de soins qu'on peut quand même souligner, que ce soit à Saintes ou dans le nord de la France. Après, c'est toujours pareil. Si je dois faire mon infarctus du myocarde, probablement que je préférerais le faire à la porte du service de cardiologie de la Pitié-Salpêtrière que, sans aucune acte péjoratif, faut que je fasse gaffe à ce que je dis, mais faut que je parle pas du pot au chat, que à 100 km d'un endroit, voilà. Donc voilà, mais au niveau de la prise en charge médicale en France, même s'il y a des hétérogénéités en termes techniques, je pense qu'on n'est quand même pas trop mal loti.
C'est un peu la même chose qu'il y a en arrière-fond de vos questions. C'est la question, c'est pas tant la médicalisation, le problème, que la judiciarisation. C'est-à-dire que quand on est trop médicalisé et que tout va bien, on va dire qu'il y a eu trop de techniques, il y a eu trop de médecine. Mais tout se passe bien. C'est justement le jour où il y a un problème que l'on va dire que ce n'était pas suffisant et qu'on va véritablement porter plainte. Donc c'est je dirais, la vision actuelle, la définition même de la médecine, qui est devenue contractualiste, qui est devenue une prestation de service, qui pose problème, mais pas tant la médicalisation. Après, la prise en charge des vieux, dans certains SAMU, qu'on ne nommera pas, la première question qu'on pose, c'est accident vasculaire cérébral, quel âge ? Et vous avez intérêt, si c'est vous, dites bien à votre conjoint qu'il ne faut pas dire moins de 75 ans, sinon on vous envoie une vague ambulance, le temps qu'elle arrive. Et qu'elle, voilà. Donc là, je pense que ça peut intéresser le Conseil économique et social de la région Poitou-Charentes, c'est véritablement entre le discours de santé publique qui est urbain et ultra-urbain, et ce qui se passe véritablement de manière périurbaine et encore plus rurale, il y a véritablement des inégalités. Mais de fait.
Non. Honnêtement, non. Vous voyez, tout à l'heure, on me disait, est-ce qu'on n'est pas trop médicalisé ? Et là, vous êtes en train de me dire, et on n'en fait pas assez. Vous voyez, le problème, c'est que quand on est dans une situation de souffrance personnelle, familiale, ça ne va jamais assez vite. C'est insupportable. Tout est toujours trop long. Pour être aux urgences, on a tous porté aux urgences. C'est encore plus inacceptable quand c'est quelqu'un d'âgé, parce que c'est beaucoup de complications que de pouvoir ôter. Mais, enfin... Je ne pourrais pas empêcher des gens de faire toujours de l'âgisme et de prendre l'âge comme indicateur pour faire ou ne pas faire. Mais j'ai travaillé en réanimation, je travaille en gériatrie. Mais en réanimation, quand j'étais en réanimation, l'âge était pris en compte, mais il n'y avait pas du tout que l'âge. On regardait plein de choses. C'était en particulier la musculature et tout ce qu'on veut. C'était la physionomie. Parce que, les médecins savent ce qu'il y a derrière. Prendre en charge quelqu'un de manière très très intensive, on a de l'expérience pour dire que derrière, on lui rend peut-être pas forcément un grand service, mais beaucoup de souffrance. Voilà. Maintenant, quand on est le patient, quand on est la famille du patient, en situation aiguë, il y a vite des phrases qui font mal et qu'on n'est pas prêt d'accepter. Donc après, c'est plus une relation de confiance et de pouvoir parler de manière... poser, parce que les questions qu'on se pose, si on les pose, on peut avoir des réponses qui parfois permettent quand même de gagner un petit peu en confiance et d'avoir moins de regrets ou de choses qu'on ait mal comprises. Il y aura toujours la place pour... Il y a des couillons partout, hein. En médecine comme partout. Mais donner juste le crédit au médecin face à une personne dont ils prennent connaissance du dossier médical, de savoir jusqu'où ils vont engager des choses dont la personne va tirer bénéfice et pas des choses qui n'apporteront au bout du compte ni bénéfice, mais plutôt beaucoup de souffrance. Donc vous avez une expérience malheureuse et elle vous a clairement marqué, c'est clair. Mais un accident vasculaire cérébral à 90 ans ou à 70 ans, si vous n'êtes pas dans le temps... imparti de moins un certain nombre d'heures pour avoir ce qu'on appelle la thrombolyse, ça sera la même chose. Et la prise en charge kinésithérapeute, sachez qu'on est en sous-effectif dramatique des kinés dans les CHU comme dans les centres hospitaliers, et que malheureusement, nous on demande maintenant de plus en plus aux étudiants en médecine de faire ce boulot. Voilà. Donc là encore, c'est plutôt homogène. L'âge peut être un critère facilement mis Mais derrière, il faut donner du crédit pour dire que la prise en charge n'a pas été vraiment impactée par l'âge. Et l'âge tout seul ne veut rien dire. Quel est le dossier médical ? D'où part-on pour le patient qu'on a sous les yeux ? Et quels sont les objectifs ? Et comment arriver à ces objectifs ? Est-ce que c'est tout à fait légitime, serein et avec le moindre risque possible ? Ou est-ce que... voilà. Ça y est. Il y en a qui amènera aussi leur maman. Je veux aucun acharnement, je veux rien, ne me faites pas le scanner. Donc vous comprenez. Il faut vraiment voir la situation de manière posée, calme, sereine, pour essayer de trouver les réponses que vous êtes prêtes à entendre et à accepter. Mais ça passe par beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Et si c'est juste des phrases qui retentissent sans prendre le temps d'expliquer de manière posée, c'est blessant et ça laisse des mauvais souvenirs.
Entendez-moi bien dans ce que j'ai dit, hein, c'était surtout en termes d'organisation des soins et de priorités dans la prise en charge. Très clairement, quand toutes les études prouvent que ce soit en gérontologie, au service d'urgence ou autre, il n'y a que de priorité par rapport aux pathologies, mais que toute personne âgée, qu'elle soit 80, qu'elle ait 90 ans, 100 ans ou 70 ans, est prise en charge de la même façon que quelqu'un qui aurait 20 ans, 30 ans. C'est en termes de priorité véritablement. Ce que je pointais ici, c'est en termes d'organisation et de moyens. C'est-à-dire que les kinés, très concrètement, gagnent nettement mieux leur vie dans le privé que dans le public. Donc pourquoi aller travailler dans le public ? Donc oui, on manque véritablement cruellement de moyens. L'organisation de l'hôpital aujourd'hui fait que les médecins ont de nouveaux métiers. La gestion du dossier médical informatisé, les réunions de pôle, ce qui fait que le médecin se transforme en économe. Ce qui fait que tout ce temps-là, cette organisation, est du temps clinique qui est véritablement à réorganiser. C'est essentiellement comme ça que je le disais quand je prenais l'exemple du SAMU, de la régulation qui est donc organisée en termes plus ou moins de moyens.
Daniel, tu voulais...
C'est un peu éloigné maintenant du stade où on est arrivé. Ce qui m'a frappé, c'est parler de redéfinir, de réinventer, etc. Et j'ai des souvenirs d'enfance dans un village qui était à une quinzaine de kilomètres d'une ville de 10 000 habitants, dans un village isolé, où on voyait des personnes âgées, des vieux, et voyait c'était des gens qui existaient, qui avaient un rôle dans le village, parce qu'il y avait effectivement toutes les générations. Donc il y a eu une évolution, une organisation qui a fait que les gens se sont perdus de vue les uns les autres, ne se reconnaissent plus, ne se considèrent plus. Et quand on est en ville aujourd'hui, on ne voit plus les vieux. C'est vrai. On les voit plus, je veux dire, dans le sens où nous, on les voyait quand on était dans un village et on était tous groupés, plusieurs générations. Et je repensais, ce qui m'a fait penser à ça, c'est l'Afrique. C'est vrai, on dit en Afrique, il y a un proverbe qui dit il faut tout un village pour élever un enfant, pour éduquer un enfant. Mais j'ai le sentiment, il y a 50 ans seulement, de l'avoir connu. Et certainement que cette façon de voir les anciens, et de les considérer, elle n'est pas si ancienne que ça chez nous. Et ça m'a frappé dans votre discours, parce que j'ai l'impression qu'on a perdu de vue complètement cette façon de vivre ensemble avec toutes les générations, qui n'est pas si ancienne que ça, puisque je pense que je l'ai connu.
Mais on en est coupable aussi, hein. Oui. On en est coupable. Moi, quand j'étais jeune, l'arrière-grand-mère, quand elle était veuve, venait, voilà, finissait par vivre... avec ses enfants et le gendre. Aujourd'hui, il n'y a plus le coût du logement fait qu'à rarement une chambre supplémentaire. Et puis, aucune envie d'avoir la belle-mère. On a eu un égoïsme qui... voilà, au Portugal, en Espagne, en Italie, on trouve encore cette solidarité. On trouve dans nos campagnes, hein, dans les Landes et tout, ils vivent sous le même toit. Mais après, c'est vrai que l'urbanisation et l'égoïsme ont changé la donne, oui.
L'opposition que j'ai mis en évidence entre jeunisme et vieillesse existe de tout temps. Par contre, ce que vous pointez, c'est plutôt de l'ordre de la sociologie de la vieillesse, où, premièrement, la personne âgée était intégrée dans la famille, on vivait ensemble, comme Marc vient de le dire. Deuxièmement, la personne âgée avait des activités rituelles. C'est-à-dire que même si ça n'allait pas vite, on donnait toujours quelque chose à la personne âgée. Et que t'es, même si les mains étaient difficiles, ou alors casser des noix, ou plier le linge, il y avait quelque chose. Et on remarque qu'au final, non seulement il y a eu l'urbanisation, mais en plus, toute cette ritualisation, cette place qu'on laissait à la personne âgée n'existe plus. Puisque ça a été remplacé par des robots, on ne mange plus de noix, on ne fait plus d'huile de noix, le repassage, on ne repasse plus, on a des vêtements qui ne se repassent plus, etc., etc. Donc il y a une sorte finalement de... Il y a un double phénomène. Il y a à la fois l'urbanisation, le changement qui n'est pas, qui ne date pas de très très loin, et surtout, il y a la ritualisation, le rôle et la fonction qui était occupée par la personne âgée qui a disparu très très vite. Avec notamment la mise en place de la domotique, entre guillemets, c'est-à-dire la robotisation de la maison. Tout ce que pouvait faire une personne âgée n'existe plus. Exemple, rapiécer les chaussettes. C'est comme rôle social, les personnes âgées avaient pour but de rapiécer les chaussettes, sauf que nos chaussettes ne sont plus en laine. Donc on ne peut plus mettre de la grosse laine aux talons. Voilà un rôle de ritualisation. Mais qui, de ritualisation au sens de socialisation. Il y avait toujours un rôle. Sauf que là, il n'y a plus de rôle. Vous savez, c'est la fameuse publicité où la personne âgée va faire ses courses dès 8h le matin et à 8h30, elle a terminé sa journée. Alors les personnes âgées, si on se lève un peu tôt, on les voit. Le matin au marché. Mais à 7h. Parce que la journée est organisée différemment. Et là, on peut parler de la chronobiologie, c'est-à-dire du manque de sommeil. Donc non seulement la personne âgée vit plus tôt que la personne qui se repose le week-end, mais en plus, elle dort de moins en moins, donc elle investit encore plus le matin.
Il y a besoin de ce concept, peut-être qu'il ne fallait pas le voir du côté dépendance, mais du côté maintenant l'autonomie, plutôt que attention à la dépendance, histoire d'être plus optimiste et de parler de ce qui reste comme autonomie plutôt de ce qui ne va pas. Ça serait probablement plus valorisant. Mais les faits sont là. On prend de l'âge, on est à risque de cumuler les pathologies, on est à risque de perdre de l'autonomie. Bon, on est quand même dans un pays où on peut mettre plein de choses en place. Quand on les accepte, on peut anticiper et faire qu'on ne soit pas forcément une charge. Ça dépend de soi-même et... Chargé. Ben, je trouve pas. Non, pourquoi vous dites ça? Et alors, est-ce que c'était une charge? Ah, oui. Oh, ça chute.
On accuse des fois un peu facilement l'économie. Le mot dépendance vient essentiellement d'une construction mentale qui nous vient du XVIIIe siècle, hein, la philosophie des Lumières. On pense l'autonomie au sens de se donner soi-même sa propre loi. Donc on pense une liberté-autonomie, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et ça donne aujourd'hui une hyper-autonomie, c'est-à-dire moi tout seul, moi j'ai raison. Donc finalement, l'opposé de cette hyper-autonomie devient la dépendance, qui apparaît dans les années globalement 70. On va utiliser ensuite le concept de fragilité, c'est-à-dire qu'on là, on a plutôt le concept psychologique de la personne âgée, et on se rend compte avec l'élaboration des concepts du monde du handicap, la déficience et l'incapacité, que on n'est pas très opérationnel. Donc actuellement, on parlera plus de dépendance, plus de fragilité, mais on parlera de vulnérabilité. Et ce qui est assez rigolo, c'est que la vulnérabilité, c'est un vocabulaire géologique. On parle d'un terrain vulnérable quand il est soumis à des tremblements de terre, à des inondations ou autres. Donc ça veut dire que même inconsciemment, la personne âgée est encore une charge géologique. Mais ça peut être aussi un roc. Donc vous voyez que là, ce qui est assez intéressant, c'est de voir comment, dans l'évolution des concepts, on a toujours cette image négative de la personne âgée. Et que le concept d'autonomie, nous sommes les héritiers de Rousseau pour les Français et de Kant pour les Allemands. Ce concept véritablement abstrait d'autonomie.
Et, enfin, ce que disait là Philippe, c'est en fait, on est dans une continuité. Et la continuité, c'est un concept plutôt naturel. C'est pas une charge, enfin, me semble-t-il. Et le... moi, j'avais une question qui s'inscrit un peu aussi dans à Aspès. Là, on essaye toujours de travailler sur la citoyenneté. Et aujourd'hui, une vraie question, c'est plus on devient âgé, est-ce qu'on garde sa citoyenneté face à la médecine, face à la santé ? C'est déjà très très dur quand on a 30 ou 40 ans. D'essayer de faire respecter la charte du patient hospitalisé à l'hôpital et d'être co-décideur des soins que l'on va recevoir et d'avoir une information éclairée, y compris d'avoir un choix. Mais alors, quand on a dépassé un certain âge, alors là, ça, c'est de mission impossible. Aujourd'hui, quelle citoyenneté on reconnaît ? Alors, il est vrai, et c'est pas méconnaître, par exemple, les soins palliatifs amènent à ce que des gens qui disaient « moi, je suis prêt à partir, il faut me... » Dès qu'on leur fait des soins palliatifs de qualité, ces gens-là, ils ont bien envie de rester, continuer à discuter un peu avec la famille. Hein, c'est... Mais, je veux dire que, par exemple, si on prend les dépistages, aujourd'hui, bon, on estime maintenant qu'à partir de 70 ans, par exemple, on fait plus de dépistage de cancer de la prostate. Mais c'est bon, c'est vrai, c'est pas vrai, ça dépend des professionnels et tout. Où est le choix éclairé du patient par rapport à ça, au fait de se faire dépister ou pas dépister ? Où est, quand on vieillit, le choix éclairé de vivre peut-être un peu moins longtemps, mais de ne pas risquer telle ou telle forme de handicap, telle ou telle forme de privation de mobilité, mais avec un risque de décès prématuré, non ? Et ce choix éclairé, c'est l'exercice de sa citoyenneté et du libre arbitre. Je veux dire que sur une personne de 40 ans, c'est très très difficile qu'elle l'exerce, et très souvent elle le fait avec un conflit, hein, avec les professionnels de santé, mais elle arrive encore à s'en sortir. Mais deux fois 40 ans, en fait, on est un peu prisonnier de ce système-là, et on peut vouloir exercer sa citoyenneté, son autonomie. Et là, on est très souvent coincé, je pense, par les gros systèmes tels qu'ils sont. Je veux dire que quand on va à l'hôpital pour un avis, si l'avis et le diagnostic découvrent quelque chose, ben pour ne pas se faire soigner, entre guillemets, ou pour essayer de choisir, ou essayer de changer, par exemple, de soignant, ça devient quasi impossible. Alors, il y a effectivement le
écoutez, je ne vais pas être dans cette polémique là, parce que je ne sais pas où on va arriver. Si vous ne voulez pas être soigné, vous ne serez jamais soigné. Il n'y a pas de souci. Alors là, vous savez, les sujets âgés sont les sujets qui sont les plus consommateurs de soins médicaux. le médecin traitant est souvent le seul réseau social qui puisse vraiment avoir le seul lien social, et ils sont très heureux de le voir régulièrement. Et tant qu'à vouloir décider soi-même, je ne connais aucun médecin qui soit allé rattraper quelqu'un au dehors du cabinet ou de l'hôpital pour dire « je vous en donne deux ». Non, vous avez une liberté totale et également de changer de soignant. Évidemment que ça peut ne pas se faire facilement parce que ce n'est pas évident que vous ayez le soignant alter ego qui soit à proximité et qui a ce système en France où les soins sont supposés être homogènes, donc on doit être soigné au plus près de chez soi. Mais moi, je n'engage pas forcément les gens à faire 300 km pour prendre un avis spécialisé. Et puis ensuite, quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faut refaire 300 km. Je pense que c'est plus serein d'être pas trop loin. Écoutez, je ne sais pas, vous pouvez toujours me prendre des cas par-ci, par-là, mais je connais malheureusement personne qui, à 40 ans, se retrouve à l'hosto et qui ne demande pas à être soigné de ce qu'on vient de lui découvrir. Hein. Mais bon, c'est pas...
Je pense qu'il ne faut pas confondre autonomie et autodétermination. C'est-à-dire que autonomie, c'est se donner soi-même sa propre loi, mais en matière de santé, il faut s'autodéterminer, c'est-à-dire une fois qu'on a été véritablement éclairé. Il y a plusieurs études qui ont été menées dans le cadre de DU liées aux droits des patients à Paris auprès d'Emmanuel Hirsch, et qui montrent que c'est pas tant à l'hôpital, hein, je dis bien à l'hôpital, un problème médical qu'un problème du cadre de santé. C'est-à-dire souvent le médecin donne l'information, mais cette information n'est pas forcément comprise, d'où la nécessité d'un relais, que ce soit le cadre de santé ou un infirmier coordonnateur, comme c'est en cancérologie. Souvent, l'information est donnée dans un temps de diagnostic, alors que le patient n'y est pas prêt, alors que le patient a besoin de plus de temps. C'est-à-dire que le temps médical n'est pas le temps du patient. L'information est donnée, mais elle n'est pas vécue comme objective, elle n'est pas vécue comme éclairée, elle n'est pas vécue comme donnée au bon moment. Donc il faut plus organiser l'information, parce que quand on discute avec les patients, ils savent qu'on peut avoir accès au dossier médical. On a plus de 76%, si ma mémoire est bonne, quand on a fêté les 10 ans l'an dernier de la loi Kouchner. Ils savent qu'ils peuvent écrire leur directive anticipée, ils savent qu'ils peuvent désigner une personne de confiance, mais tout dépend comment c'est fait et comment c'est accompagné. Et ça nécessite du temps. Par exemple, quand vous demandez à quelqu'un de désigner sa personne de confiance, il va désigner son conjoint. Alors que le rôle de la personne de confiance est justement quelqu'un qui n'a pas trop, voire même pas, de lien affectif. Il y a une confusion entre la personne de confiance et la personne à prévenir. Mais quand, dans les services de, alors que je connais bien, de réanimation et de soins palliatifs, quand on accompagne et que là, il y a soit une infirmière de coordination, soit le cadre de santé qui joue ce rôle-là, et on désigne une personne de confiance, non pas en rentrant dans un service comme on coche si on est du groupe A ou du groupe O, il y a véritablement un accompagnement de 2 ou 3 jours. On voit véritablement que l'information se passe. Donc c'est plus un temps, oui, un accompagnement
ça,
que l'absence d'information.
Il y a des thèses de médecine qui ont été faites sur une information qui a été donnée, et le thésard lui-même donnait cette information, et puis ensuite les gens étaient appelés 3 mois après. Et la plupart, non, on ne m'avait jamais dit ça. Ce qui veut dire qu'effectivement, le moment du stress de l'hospitalisation, il n'y a rien de pire que pour faire passer certaines informations et certains messages, et qu'on ne prend jamais assez de temps pour ça, et qu'il y a des choses qui sont maintenant mieux structurées, en particulier sur le plan de la cancérologie, sur le plan de l'Alzheimer ou autre, pour qu'il y ait un temps dédié, pur et dur, non pas à l'examen, mais aux échanges. Oui.
Et ce n'est pas tant l'information diagnostique, la pire, c'est l'information quand on sort de l'hôpital. C'est-à-dire que le patient n'a qu'une idée, rentrer. Vous pouvez lui donner tous les papiers possibles, inimaginables, lui donner l'information, l'éducation thérapeutique, tout ce que vous voulez. Il n'a qu'une pensée en tête, rentrer chez lui. Donc l'information est là, elle est pourtant faite par des professionnels formés à la pédagogie pour l'éducation thérapeutique. Si on pense par exemple au diabète de type 2, malheureusement ça ne sert à rien parce que le patient n'est pas réceptif.
En Poitou-Charentes aujourd'hui, 1/4 des gens hospitalisés disent qu'on ne leur a pas demandé leur personne de confiance. C'est du déclaratif.
Non.
C'est l'étude du CISR.
Non, mais c'est le problème. Attention aux études. Toute personne hospitalisée a un carnet d'admission avec demande de choix de la personne de confiance. Et vous avez 90% des patients hospitalisés qui ne savent même pas qui donner comme personne de confiance. La personne de confiance, c'est juste le temps de l'hospitalisation. C'est pas quand je suis à la maison, hein. C'est à chaque hospitalisation. Ça fait partie du carnet et que le soignant vient apporter à chaque malade. Bon, après, les études, il y a qualité d'études et qualité d'études. Mais personne, sauf problème de malvoyance, de malaudition, bien évidemment, ou de troubles cognitifs. Mais vous savez, c'est comme les directives anticipées. On n'est pas bon en France. En Suisse, j'ai travaillé à Genève. Et là, c'est beaucoup plus les directives anticipées. Au bout du compte, elles ne sont pas suivies. Donc, voilà. L'être humain fait que... Il y a plein de bonnes choses, mais on n'est pas tous toujours d'accord au même moment pour faire que ces choses-là seront véritablement concrétisées ou pas.
Et quelque chose qui biaise aussi, c'est qu'il y a de plus en plus de soins ambulatoires. Donc on arrive au bureau des entrées, donc il faut cocher la personne de confiance, on dit qu'on le fera plus tard. On arrive dans le service, avez-vous coché la personne de confiance, on le fera plus tard. Et puis on va en salle d'opération, et puis on remonte, et puis on s'en va.
Oui, mais ça c'est de l'anticipation. Vous faites un spot publicitaire qui passerait de temps en temps pour dire « Pensez, voilà, c'est pas rentré, parce qu'on n'est pas prêt à... » Ça nous emmerde de faire ces choses-là. On est à l'hôpital pour un problème qu'il faut gérer. On pose à ce moment-là une question qui déchire les patients. Je dois choisir entre mon conjoint, mes enfants, ma voisine. Je vais en vexer un. Je vais citer un nom qui va vexer tous les autres. Donc c'est pas le bon moment. Ça s'appelle de l'anticipation. Et c'est en anticipation qu'on est mauvais. Et ça, c'est pas le propre de l'hôpital. C'est le propre de la société.
Donc l'aspect, c'est un nouveau slogan. Les antibiotiques, c'est pas automatique. La personne de confiance, c'est automatique.
Copyright.
Voilà.
Non, mais enfin, c'est quand même, et je veux dire que les témoignages qu'on peut recueillir et tout, c'est évident que une partie des gens à l'hôpital ne comprennent pas obligatoirement ce qui leur arrive. On le sait parce que les gens sont différents, parce que les gens ne sont pas en capacité d'entendre ou d'écouter, suivant les personnes. Le problème, c'est que quand le professionnel sait ça, c'est peut-être à lui d'essayer de faire l'effort pour réduire au maximum cette incompréhension. Je dis bien réduire au maximum, parce que ce n'est pas obligatoirement très facile. Mais ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a une incompréhension et beaucoup, beaucoup de gens n'arrivent pas à vraiment exprimer ce qu'ils ont eu, comment ils l'ont eu et comment ils ont interagi sur leur prise en charge. Parce que c'est quand même important de pouvoir interagir sur sa prise en charge, c'est-à-dire d'avoir une proposition de traitement qu'on accepte, bien entendu, à 99,99%. Mais que ça soit bien une proposition et qu'on dise pourquoi et qu'on explique un peu. Je veux dire que ça fait, et chez la personne âgée, parce que ce qu'on entend, on va prendre son petit traitement, on va prendre sa petite soupe et on va prendre son petit truc, ça m'étonnerait que cette personne-là, on prenne le temps réellement de lui expliquer. Alors, bien sûr qu'il y a des endroits où ça se fait. Et bien heureusement.
En termes généraux, on ne prend jamais assez de temps dans la relation patient-médecin, c'est bien évident, parce que c'est ce qui est le plus chronophage. Je sais qu'en France, c'est la consultation médicale qui est la plus longue en Europe. Elle dure 20 minutes. Et pourtant, bien entre nous, on trouve qu'elle est bâclée parfois. Donc autant vous dire qu'à 20 minutes, on est plus long d'Europe. Donc vous imaginez comment c'est dans les autres pays. Donc le temps, il faut toujours savoir le prendre et il n'y a jamais d'urgence à le prendre. Si on ne peut pas le faire aujourd'hui, il faut qu'on sache se débrouiller pour le reporter au lendemain. Mais derrière, voilà, c'est pas que le professionnel qui est fautif de ça. C'est aussi le patient et la famille. Et c'est aussi compliqué.
Et il y a aussi les représentations de la maladie, c'est-à-dire que les patients pour des maladies bénignes, pour des traitements chroniques sont véritablement demandeurs d'un accompagnement et davantage d'informations, et c'est là qu'elles vont se situer comme insuffisamment informées. Mais pour les maladies graves qui nécessitent véritablement une filière de soins très précise, comme une prise en charge d'un accident vasculaire cérébral ou alors la prise en charge d'un cancer, eh bien on voit qu'au contraire, les patients, d'après les études, encore une fois, on peut leur faire dire n'importe quoi, mais là, on est hyper ciblé cancérologie et pathologie cérébrale, sont contents qu'il y ait une filière de soins qui, entre guillemets, les berce, dans lequel eh bien, il y a une sorte de schéma dans lequel ils savent où aller, mais pas trop. Pas trop. et on voit en cancérologie, les stratégies. Je veux savoir sans trop savoir. Faut me dire, mais pas trop. Et puis on verra, et puis en même temps, c'est bien. C'est bien.
Mais cela dit, les hôpitaux souffrent d'un sous-effectif. Ça, il n'y a pas photo. Hein.
Bon, peut-être une dernière question. Allez.
J'aurais voulu votre réaction par rapport à un événement d'il y a 2 ans. L'Union cycliste internationale a créé un record de l'heure pour les plus de 100 ans. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ?
Il s'agit encore une fois de penser la vieillesse en dichotomie, c'est-à-dire que plus on recule, plus on a d'espérance de vie, donc plus la vieillesse deviendrait 115, 120 ans. Donc au final, 100 ans devient, comparé aux jeunes, donc culte de la performance. Donc au final, voilà, et on crée de la compétition. C'est-à-dire qu'encore une fois, le vieux est synonyme ici de 120 ans. Donc le 100 ans, qui est bien avant 120 ans, doit se comporter comme un jeune. Et on a encore une fois une compréhension très dichotomique, très opposée, comme si évidemment on pouvait être aussi compétitif, on pouvait être autant violent dans ses représentations que l'adolescent au sens freudien. Donc on pense véritablement toujours avec des schémas très opposés. Donc 100 ans véritablement est un adolescent, donc... Et évidemment, il faut qu'il soit rentable, il faut qu'il soit productif.
Ça a dû faire plaisir à certains. Donc ça, c'est déjà pas mal. Voilà. Donc voilà, au moins. Après, faut pas que ça soit de la moquerie derrière. Voilà, c'est tout. Donc si jamais c'est fait intelligemment... Bon.
Et puis derrière, il y a le culte de l'hédonisme. Nous vivons dans une société hédonique, donc il faut que tout le monde ait du plaisir. Donc si on donne des coupes lors d'un tournoi de je ne sais pas trop quoi ou lors des Jeux Olympiques, pourquoi les personnes âgées n'auraient pas aussi droit à leur petit moment de gloire, à leur petit moment de bien-être? Donc là, vous avez, je dirais, un point de vue très marketing de la prise en charge du 100 ans. Mais ça fonctionne. Hédonisme, plaisir. Soi-disant une satisfaction, je ne suis pas sûr.
Mais ça dépend vraiment de ce que vous mettez derrière le mot vieillir. Si vous considérez comme quelque chose de péjoratif, c'est sûr que ça ne va pas le faire. Mais si vous considérez comme le fait, bah, je prends de l'âge tout en gardant mon bien-être et arriver à faire continuer mes passions, mes loisirs, bon, ça va. Voilà. Oui, allez, la dernière.
Ouais.
Oui, Benoît l'a dit tout à l'heure, hein, c'est la culture et il y a plein de choses à changer. Dès les plus jeunes, absolument.
Il n'empêche que, alors là, vous posez la question, est-ce que les valeurs s'enseignent ? Est-ce qu'on peut changer les mentalités ?
Oui, mais ça prend plusieurs générations.
Voilà.
Regardez, aujourd'hui, nos enfants mettent la ceinture de sécurité à l'arrière de la voiture. Nous, on le fait toujours pas. Donc, le temps d'une génération, des choses peuvent se faire. Mais il faut les mettre en place.
Mais ça veut dire que si on enseigne, si on fait cette transition, ça veut dire qu'on va donner de nouvelles injonctions, de nouvelles définitions, de nouveaux objectifs, et on va encore, oui, mais on va encore définir la personne âgée comme ceci ou comme cela. Oui, mais les nouvelles générations pensent avec les concepts d'aujourd'hui. Donc ils ne peuvent la penser aujourd'hui par leur expérience, par leur histoire, par leur culture, que comme, véritablement, comme telle. Il faudrait réinventer le lien social, il faudrait réinventer les familles, il faudrait...
Réinventer. Donc on va conclure cette soirée. Alors je peux déjà vous dire que la prochaine réunion d'ASPES c'est le mercredi 4 décembre, normalement dans cette même salle, et que nous parlerons des adolescents, de savoir si l'adolescence est une maladie, est un état qui peut s'avérer... Et quel rapport entre l'adolescence, la santé et les... Donc on aura normalement un pédopsychiatre et un sociologue qui viendront l'un et l'autre parler de leur vision de l'adolescence. Et puis on a réfléchi au programme du premier semestre 2014. Et donc il y aura deux thèmes qui seront développés dans le premier semestre 2014. Un thème autour du rôle de la mutualité dans le système de santé, et est-ce que on doit généraliser ce système de mutualité et quel rôle il joue dans le système de santé, et un autre thème qui sera autour de l'accès aux données de santé, qui est un thème aujourd'hui qu'on revoit souvent dans l'actualité, où il est demandé à ce que les données de santé, de l'assurance maladie en particulier, soient mises à disposition de ceux qui désireraient s'en servir pour faire des statistiques du moment qu'ils sont anonymisés. Donc ces thèmes-là seront abordés normalement en 2014. Et puis, ben, il me reste à remercier Monsieur Pacalin et Monsieur Pain, de vraiment les remercier beaucoup d'avoir participé à cette soirée, de nous avoir éclairés sur ce sujet. Et puis, ben, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Après, vous avez encore dit merci.